I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-il possible de traverser la France en courant et en nageant? Mon invité va essayer de nous le prouver. Allez, c'est parti. Bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes et qui se lancent aussi dans leurs propres défis pour devenir, elles aussi, championnes du monde de leur monde. Avant de vous laisser écouter ma discussion avec mon invité du jour, je vous rappelle que si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est gratuit et à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Et bien sûr, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant, passons donc à mon invité du jour. Bon, j'ai pas besoin de faire une longue présentation parce que vous le connaissez déjà très bien, surtout si vous suivez un petit peu tout ce que je fais. C'est la troisième fois qu'Hermano vient dans le podcast. Il fut mon premier invité du podcast avant mon marathon. Depuis, nous sommes devenus amis. Nous avons fait des lives ensemble sur le YouTube avec le Hamsters Running Show. Et nous avons aussi fait un swimrun ensemble. Et on avait fait un épisode spécial ce jour-là. Une expérience qu'il a tellement aimée qu'une étrange idée lui est venue en tête. Traverser la France en swimrun. Oui, oui, Dunkerque, Menton, en courant et en nageant, 1800 km. Le tout le long d'une voie romaine dont je ne connaissais pas l'existence il y a quelques mois, mais maintenant qui me passionne de voir comment est-ce qu'on arrive à traverser la France en suivant cette vieille route imaginée par nos ancêtres. Et il fait tout ça au profit aussi de deux associations. Alors j'ai invité Hermano à venir nous parler de son parcours, de ce projet, de comment il le prépare, comment il organise la logistique, quelles sont les péripéties, pourquoi ces associations, comment il va s'organiser, comment il va manger, comment il va dormir, tout. Tout, on va tout savoir. Et bien sûr, comme le défi n'est pas encore fait, que ce sera un défi qu'il va faire sur le mois de juin, je le redis, quand il aura terminé, je le réinviterai pour faire un bilan de cette aventure. Et maintenant, c'est parti pour ma discussion avec Hermano. Allez, c'est parti. Salut Hermano !
Salut Bertrand, mais quelle patate dans la voix !
Comment vas-tu ?
Je vais bien.
Oui.
Très bien. Aujourd'hui, je vais pas très bien.
S'il te plaît, ne mens pas parce que tu es officiellement, au partir d'aujourd'hui, l'invité qui est venu le plus souvent sur le podcast. Et je parle même pas des lives. Ça fait trois fois qu'on t'entend quand même. T'es officiellement, il y en avait qui étaient venus deux fois. Et toi, t'es trois fois. Donc voilà, t'es tout seul détenteur du record, etc.
Yes, j'ai mon segment Strava sur le podcast de Bertrand.
Voilà, donc t'as ta petite couronne, ton petit com, etc. et tout. T'es un local légende. Donc on va peut-être pas faire les présentations. Je me rappelle pas trop quand est-ce que t'étais venu la première fois. Si ce n'est que c'était la saison 1 du podcast, t'étais l'un des premiers invités. C'était pour parler tes conseils avant mon marathon de Paris. Alors autant te dire que c'était il y a combien de temps? Et deux ans de ça?
Bah oui.
Deux ans? Trois ans?
2019.
Trois ans, 2019. Donc, il y a trois ans, t'étais venu, hein. Qu'es-tu devenu depuis? Bon, on a fait un swimrun ensemble il y a deux ans, un an et demi.
Ouais. Eh, mais du coup, en fait, ça fait quatre fois, Bertrand, que je passe dans le podcast parce que avant le marathon de Paris, après le marathon de Paris pour débriefer. Et non, t'étais venu.
Et non, on avait débriefé
ouais,
chez toi, en
c'est
fait.
Vrai, autant voilà. Pour moi.
Bon, ouais. Et voilà. Donc, on va le répéter juste en quelques mots. Tu as 10 secondes pour te présenter.
Ok, Hermano Di Micheli, 42 ans, papa de 4 enfants et époux comblé depuis plus de 20 ans, ancien banquier à Luxembourg. Je me reconvertis en tant qu'aventurier du quotidien, pour reprendre un terme qui était cher et que je me suis aussi approprié. Voilà.
Voilà, nickel. Alors, tu l'as dit, c'est intéressant justement. T'étais vraiment banquier ou t'étais...
C'est quoi ce blanc? Et en fait, ça dépend ce que tu mets derrière le terme banquier. Je travaillais dans une banque à Luxembourg, dans une banque française. Alors, je n'étais pas dans la banque de détail, c'est-à-dire que j'étais pas derrière un guichet ou dans un bureau en train de recevoir des clients et de les servir sur leur banque du quotidien. Moi, j'étais dans un service, dans un département où on s'occupe du service pour les investisseurs. Je l'ai un petit peu expliqué dans le podcast de Seb à côté de mes pompes où j'ai été invité il y a quelques semaines aussi. Mais en gros, pour ceux qui souhaitent investir et qui connaissent déjà le monde des fonds d'investissement, eh bien, derrière ceux qui achètent des actions en bourse pour les mettre dans les fonds d'investissement, donc ce sont les gestionnaires de portefeuille, enfin les gestionnaires de fonds, eh bien, il y a aussi des petites mains qui calculent le prix des parts de chaque fonds auquel les investisseurs vont pouvoir acquérir des petits morceaux de ces fonds d'investissement. Et c'est ce que je faisais dans la banque à Luxembourg. Je faisais partie des équipes qui calculent ces prix qu'on appelle des valeurs liquidatives.
D'accord.
Un net liquidative d'inventaire.
Donc, tu avais un boulot qui était super passionnant, hein, j'imagine.
J'avais un boulot qui me plaisait parce que j'ai bossé dans des équipes assez sympas. Après, c'était pas le boulot de ma vie. Moi, depuis que je suis tout petit, je voulais être trader. À l'époque, on me disait même Golden Boy. On n'appelait pas ça trader. Mmh. Et puis, quand j'étais sur la fin de l'adolescence, j'ai pas compris qu'il fallait étudier sérieusement pour être trader. Je pensais que faire du sport, s'éclater et fonder une famille, ça aurait pu suffire, mais ça n'a pas suffi. Donc j'ai fini dans la banque, mais pas là où j'aurais voulu.
Tu voulais vraiment être trader?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais.
Mais à quel âge?
Depuis que j'avais 10-12 ans. C'est un métier qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours fait rêver, l'adrénaline. En fait, ça ressemble un peu à une épreuve sportive, parce que quand t'es dans cette fameuse corbeille, alors en France ça n'existe plus, mais on voit encore ça aux États-Unis, notamment au Nasdaq. Et ben quand t'es dans la corbeille, quand t'es au milieu de tous ces agents de change, de tous ces traders, et puis que tu négocies des achats, des ventes d'actions, c'était vraiment quelque chose qui m'impressionnait. Et puis aussi tout l'aspect technique, toute la connaissance qu'il y avait à avoir sur le domaine financier, quelque chose qui me faisait rêver.
Mais attends, mais comment tu avais connaissance de l'existence de ce truc ?
Mon papa était un petit peu intéressé aussi par le domaine. Il investissait un petit peu en bourse et puis de temps en temps, il m'expliquait comment ça marchait. Il y avait toujours à la maison un journal financier, tu sais, les fameuses pages rouges du Figaro qui traînaient. Et donc, je regardais un petit peu. Et puis, voilà, c'est vraiment un métier qui m'avait toujours fait rêver.
Ah ouais, eh ben tu vois, parce que moi je connais pas beaucoup de gamins qui disent ouais moi je veux être trader, bon je rêve d'être trader, etc. Enfin c'est les gamins ils disent ils veulent être Mbappé maintenant. Enfin à l'époque
ils voulaient être pompier ou policier, maintenant ils veulent être Mbappé.
Vétérinaire, médecin, Platini, tu vois, enfin des trucs comme ça quoi. Enfin des métiers. Enfin t'es peut-être un petit peu jeune pour Platini toi, mais bref
Ouais, on n'a pas 10 ans d'écart non plus. Hein.
Ouais, mais bon, tu vois, moi, dans ma jeunesse, mes idoles de ma jeunesse, quand je jouais au foot, c'était les Girondins de Bordeaux, tu vois, et à l'époque, on avait des gars, mais ceux qui écoutent et qui ont mon âge, ils vont se rappeler, tu vois, les frères Vujović, Tigana, Gires, tu vois, c'était une époque formidable, tu vois, du foot incroyable, etc., dans lequel il n'y avait aucune tricherie avec les années baise à Bordeaux. Bref. On s'égare. Bref.
Oui, un petit peu après avec OMVA.
Ouais,
tout ça,
voilà.
Jamais de tricherie.
C'était longtemps, longtemps avant. Longtemps, longtemps avant. Vraiment, oui. Longtemps, longtemps avant. Tu sais, ils avaient des gros manteaux de fourrure et tout. C'était à une époque du foot. Vraiment, bon, on rigole, hein. Mais vraiment, c'était un espèce de business un petit peu bizarre. Mais vraiment trader. Ouais. Tu vois, donc tu voulais être trader. Donc finalement, tu te retrouves banquier à ta manière, on va dire, hein, finalement.
C'est ça.
Et là, maintenant, tu ne l'es plus.
Non.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, comme je te disais, c'était un métier qui au début me plaisait, parce que je travaillais avec des équipes très intéressantes. Et puis au bout d'un moment, cet état d'esprit, ces bons moments se sont un petit peu tassés. Il y a eu aussi pas mal de bonnes excuses pour faire un petit peu de ménage dans la banque, et notamment, je l'ai dit, hein, je travaillais pour la banque Rouge et Noir, très connue en France. En 2008, il y a eu l'affaire Kerviel. Moi, je venais juste de m'installer au Luxembourg, donc c'était un petit peu moins rose de travailler dans cette banque-là, et puis dans les autres après il y a eu la crise des subprimes, donc on a un petit peu morflé pour les gens qui travaillaient dans le secteur bancaire. Et puis après, j'ai eu des petits problèmes de santé aussi qui m'ont fait rester un petit peu loin du bureau pendant quelques temps. J'ai eu quelques accidents de la route en vélo aussi. Et y a eu beaucoup de prises de conscience. Et puis aussi, des fois, au détour de l'écoute de quelques podcasts, et ben, j'ai découvert des gens comme Bertrand Soulier ou comme d'autres qui sont très inspirants et puis qui m'ont fait aussi, réfléchir sur ce que je faisais, sur donner un sens à ma vie et que finalement, ce que je faisais au quotidien, c'était pas exactement ce dont je rêvais.
Et donc, à ce moment-là, toi, tu te dis quoi ? Qu'est-ce que je fais ?
À ce moment-là, quand j'ai cette espèce de prise de conscience, bah déjà c'est violent en fait. Je venais sur une quarantaine d'années. Tu te dis, bon, c'est bon, c'est la crise de la quarantaine. Dans 6 mois, ça va passer. Je me tournerai vers autre chose. Et puis finalement, ça passe pas. Et puis finalement, tu commences à faire un peu plus attention à ce que tu manges, au sport que tu pratiques. T'as envie d'évasion autrement, plus que d'aller t'éclater au bureau et puis te faire des semaines de 80 heures. Et alors oui, t'es bien payé, mais en fait, c'est vraiment ce que j'avais plus la flamme en fait pour ça et puis après quelques lectures sont passées par là aussi et notamment un certain Rich Roll dont tu parles très souvent qui il faut le dire la lecture de son livre m'a véritablement inspiré et ça m'a ouvert les yeux ou certains chakras sur cette histoire de se reconvertir, de se réinventer, de se retrouver via le sport et via l'aventure. Alors c'est aussi une chose que tu prêches beaucoup dans ton podcast et je te l'ai dit, hein, tu n'es pas anodin aussi à tout ça, à ce nouvel état d'esprit et voilà. Et du coup, je me suis demandé ce que je pourrais faire pour être plus en accord avec ce nouveau mode de pensée. Mmh. Alors déjà, il y a eu un petit peu plus de sport, il y a eu une réorientation de mes objectifs sportifs parce que pendant quelques années, j'avais un petit peu mis le sport en pause. Et puis quand j'ai voulu reprendre des objectifs, notamment dans le triathlon, ça s'est pas forcément bien passé parce que souvent ma tête a été dire bonjour au bitume ou ma tête ou ma clavicule et du coup je me suis dit que le triathlon était peut-être pas forcément un truc qui était fait pour moi à 40 ans et puis j'ai découvert d'autres choses et notamment avec un copain on s'est fait un swim run en septembre 2020 et là ça a été un nouvel amour dans le sport. J'ai découvert un sport que j'apprécie beaucoup, où finalement ça reste une discipline enchaînée, mais où on prend beaucoup de plaisir. Et en plus, de par l'essence même du swimrun, qui est un sport qu'on pratique à deux, enfin on est plusieurs pendant la compétition, mais en tout cas on est deux à être en théorie accrochés l'un à l'autre, je trouve que ça crée une certaine émulation et un certain bonheur, un certain plaisir de partager une expérience avec quelqu'un.
Voilà, comment Ironman au luxe devient swimrun au luxe. Mais en fait, il faut que tu enlèves le luxe maintenant.
Oui, il faut que j'enlève le luxe maintenant parce que je ne serai plus au luxe dans quelques mois.
Ah, attends, parce que tu as quand même sauté des étapes dans cette histoire-là. Parce que tu as fait combien de marathons dans ta vie ?
Je sais pas, une quinzaine.
Une quinzaine ?
Ouais.
Tu as fait un half ?
En triathlon ?
Oui.
En triathlon, j'ai fait plusieurs halves et puis j'allais prendre le départ d'un premier Ironman avant d'être obligé d'annuler une semaine avant le départ et j'étais monté jusqu'à à peu près 3/4 de la distance.
Il y
a à peu près parce qu'en fait c'était les championnats de France longue distance et donc il y a plus de natation que sur un Ironman mais après en vélo et en course à pied, c'est vraiment les 3/4. C'est 120 en vélo alors que sur Ironman c'est 180 et c'est 30 en course à pied alors que sur Ironman c'est un marathon.
Oui, donc quand tu dis oui, j'avais un peu délaissé le sport, j'en faisais moins, etc. Enfin, c'est quand même sacrément relatif cette histoire.
Non, bah écoute, j'ai délaissé le sport parce que clairement entre 2010 et 2018, j'ai presque plus pratiqué de sport. Je courotais un petit peu de temps en temps, mais il y avait plusieurs excuses pour ainsi dire à ça. Enfin, je me trouvais plusieurs excuses. La première excuse que je me suis trouvé, c'est qu'en 2010, j'ai pas pu prendre le départ de mon premier Ironman, et donc ça a été un petit choc. Le non-départ de ce premier Ironman, il venait concomitamment à des problèmes de santé et notamment des problèmes de baisse d'acuité visuelle, qui ont fait que ça devenait difficile d'envisager de continuer à faire du vélo. En parallèle de ça, mon troisième enfant était né et il avait des problèmes de santé, donc ça prenait aussi pas mal de temps et de préoccupations et de temps de cerveau disponible. Donc toutes ces choses-là ont fait que, en fait, de 2010 à 2018, j'ai vraiment laissé le sport de côté. Pour schématiser, je devais courir peut-être 2 fois par semaine. J'avais pris une quinzaine de kilos par rapport à mon poids de forme de 2010, donc voilà, j'étais plus en mode gros dodu que véritable sportif. Et puis quand j'ai voulu reprendre le triathlon en 2018, j'ai été confronté à ces petits problèmes de circulation sur mon vélo.
Oui, on va le dire, t'as pris une bagnole.
Non, la première fois, j'ai pas pris une bagnole, je suis tombé tout seul.
Oui, t'es tombé tout seul et après t'as pris une bagnole et magie du truc, en plus c'est toi qui es en tort.
Et en plus, c'est moi qui suis en retard. Oui, bah ça, c'est la loi luxembourgeoise. Déjà, si t'es pas luxembourgeois, tu es sûr que tu vas manger. Et j'avais encore un échange avec celle qui était censée être mon avocate et défendre mes intérêts. Bref, passons. Elle me dit, bah oui, mais vous avez pas mis votre bras pour signaler que vous vouliez doubler la voiture. Donc même si la voiture, elle vous a écrasé, bah c'est de votre faute.
Oui, non, mais quelle idée aussi. Enfin, le Luxembourg, franchement, hein, quelle idée ils ont aussi de laisser les gens rouler à vélo quand même. Hein, hein, il y a tant de bagnoles, des belles bagnoles, etc. Vous rouliez tous en Mercedes.
Bah là, pour le coup, c'était un gros 4x4 Isuzu. Hein, donc je suis rentré dans la bagnole, j'étais bien haut, enfin j'étais bien bas par rapport à la voiture.
Ouais. Mais bon.
Si ça avait été une petite Clio, je serais peut-être passé au-dessus. Là, je l'ai bien mangé, la voiture.
Bref, donc, tu te retrouves comme ça. On nous dit, bon, le vélo, on le range. Bon, je ne sais même plus de même pas dans quel état il est. Il ne doit plus rouler, cet engin-là.
Ah non, mais le vélo est mort. Et c'est ça qui me tue, parce qu'en plus, c'était vraiment un vélo très affectif pour moi. Je l'avais racheté à mon ancien entraîneur quand j'étais à Rouen, donc au Rouen Triathlon. Je ne l'avais pas payé extrêmement cher, mais c'était vraiment un prix de cœur, parce que je l'avais racheté. C'était un vélo qui avait été fait sur mesure. Il avait été réajusté pour moi. Il faisait presque partie de mes débuts en longue distance en triathlon. Donc, c'était vraiment le vélo que j'aimais par-dessus tout. Voilà, il n'est pas cassé en deux, mais le cadre est abîmé. Je ne peux plus rouler avec.
Franchement, ces automobilistes, ils n'ont aucun respect. Un vélo qui a une telle qualité, qui a été fait sur mesure, qui est d'une vitesse, d'une précision, qui a été réajusté à toi, etc. Il y a un mec avec son 4x4, il roule dessus. Et en plus, on le félicite et on lui dit... Mais le mec avec le vélo, il vous a mis votre 4x4. Franchement, il exagère. Non mais.
Non, je pense qu'on l'a pas félicité parce que je suis encore vivant. Si il m'avait envoyé sur le bord, il aurait peut-être reçu des fistes. Non, bon. Je suis ironique, je suis.
On en plaisante, mais n'empêche que quand on regarde un petit peu l'actualité, le vélo, etc. Il y a quand même deux domaines en ce moment qui m'énervent un petit peu, mais on en parlera dans d'autres trucs. Mais c'est les voitures et les cyclistes. Il y a un problème de cohabitation. Et les chasseurs et les coureurs, il y a un autre problème de cohabitation. Je rappelle, on enregistre aujourd'hui le 25. Il y a une semaine exactement, dans ma région, là, à 100 km de chez moi, il y a une jeune femme qui était tuée sur un chemin en train de marcher par une chasseuse de 17 ans. Hein. Ouais. Donc, juste pour repositionner un petit peu le truc. Voilà. Donc, il y a deux trucs qui sont un petit peu énervants quand même. On se dit, dans notre pratique, on est tranquillement, etc. Et la domination de la voiture sur la route, sur les espaces urbains, etc., elle est quand même terrible, parce que finalement, quand t'es piéton, quand t'es cycliste, quand t'es trottinettiste, quand t'es tout ce que tu veux, bah, finalement, t'as plus aucune place. Donc, t'es un petit peu obligé de te dire, c'est à moi de m'écraser, parce que de toute façon, le mec avec un Isuzu qui fait 2,5 tonnes, qui paye même pas de taxes en plus, ils l'ont fait là comme ça et tout. Non mais, et tu sais qu'il y a des bagnoles qui sont garées sur le parking juste à côté de chez moi. Ma fille, elle doit pouvoir passer dessous.
Ouais.
Presque sans se baisser maintenant, tellement ils sont hauts et tout. Enfin, je dis sans se baisser. Le jour, on a regardé quand même, elle arrive, elle dépasse pas le capot. Pour montrer un peu le danger pour les piétons et pour les vélos, c'est vrai, comme tu disais, quand t'arrives en vélo, t'es pile à hauteur des pare-buffes, les compagnies. Donc, bref, c'est ça. Voilà. Bon. Donc tout ça nous amène quand même à un moment donné où tu te dis, tu deviens le Ironmanolux, deviens le Swimrunolux.
C'est ça.
Pour l'instant. Mais de là, franchement, de là à te dire, maintenant, je vais me faire un petit défi comme ça, parce qu'on n'a pas parlé encore, mais on va y arriver. Tu te dis, qu'est-ce qui te prend à un moment donné, tu te dis, il faut que je me lance dans un défi. Alors, je te demande pas de le défi encore, mais qu'est-ce qui te passe dans la tête de te dire, je me lance dans un défi?
Ouais, je te l'ai dit, il y a déjà l'écoute de certains podcasts et notamment le tien qui est très inspirant et qui m'a donné envie de vivre des aventures, plus que de l'aventure au quotidien, vraiment vivre une grosse aventure. Et puis, il y a eu la lecture du livre de Rich Roll qui est en français « L'ultra marathon m'a sauvé » et en anglais, je ne sais plus, mais…
Which one?
Non, il y a un titre. Bon, bref. Le petit livre jaune. D'ailleurs, j'avais déjà fait la relation entre le petit livre jaune de Rich Roll et le petit livre jaune de Bertrand Soulier. C'est autre chose. La lecture de ce livre m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Déjà, quelqu'un qui était très sportif dans sa jeunesse, qui était plutôt très introverti et qui s'est découvert via le sport et qui après le sport, enfin, je dis après, en fait, choisit une université relativement à ses ambitions sportives, parce que clairement, il a intégré le cercle des nageurs de Stanford, et l'université de Stanford, parce qu'il voulait devenir nageur olympique et que, à cette époque-là, c'était là qu'il y avait les meilleurs du monde. Et finalement découvre les joies, entre guillemets, de la vie universitaire et tombe dans l'alcoolisme, si ce n'est plus. Il n'en parle pas forcément très ouvertement dans son livre, mais je pense qu'il n'y avait pas que l'alcoolisme à ce moment-là.
Il le dit. Il prenait de la blanche. Hein, attends. Il le dit, il était drogué, il avait tout ce qu'il fallait pas, le petit gars là. Bon, plus alcoolique que drogué, mais il le dit à un moment donné. Hein.
Donc, ouais, quand il était jeune, je pense qu'il était un peu drogué. Après, sur la fin, sur 30-40 ans, je pense qu'il était surtout très alcoolique, très dépendant à l'alcool. Mais donc voilà, ce gars qui se sentait pas très bien dans sa peau en fait, et qui a rencontré l'alcool et autres déboires, qui se sentait mieux finalement dans ces excès-là, peut-être parce que ça lui faisait sauter son syndrome de l'imposteur, peut-être que ça lui faisait sauter ses inhibitions, peut-être que ça lui permettait d'être un petit peu moins introverti et que il contrôlait plus, puis en même temps ça lui permettait de se sentir bien parce qu'il y avait plus ces barrières qui l'empêchaient et qui le freinaient. Et puis jusqu'au moment où il a, alors même si il n'est pas devenu un grand avocat, même s'il n'a pas forcément tiré profit de ce passage à Stanford, il a quand même été avocat, il a quand même une belle vie où il a touché de l'argent, même si c'était un gros alcoolique qui, je pense, était très malheureux dans sa vie jusqu'au moment où, c'est le pitch du livre, quoi. C'est qu'à 40 ans, il n'arrive plus à monter au deuxième étage de sa maison pour voir ses gosses, en l'occurrence c'est son beau-fils, et il se dit que quand ils auront 18 ans, il sera peut-être même plus encore vivant, quoi. Et qu'il se relance dans le sport, et puis du sport, il se lance dans l'aventure avec son copain, avec qui il se lance dans le Epic Five, qui est finalement 5 Ironman d'un coup sur les terres d'Hawaï, qui est un petit peu la source de l'Ironman. Je dirais pas du triathlon, mais vraiment de l'Ironman. Je suis pas alcoolique, je suis pas drogué, j'ai eu une belle vie, donc je me reconnais pas forcément dans ces excès-là de Rich Roll, mais plutôt dans le fait que il y a des moments où je me sens pas à ma place, je me sentais pas super heureux dans tout ce que je faisais, et je me sentais pas épanoui dans certaines de mes entre guillemets missions de vie. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je crois qu'il faut que je vive une aventure. Une grosse aventure. Et donc faire des compétitions, c'est bien, j'en ai déjà fait plein, et à chaque fois c'est un super moment parce que comme quand on va à l'entraînement au club, on n'est pas tout seul, on partage des moments avec d'autres. Mais en fait, je veux pas me créer une aventure avec d'autres, je veux me créer mon aventure pour moi et avec moi-même, pour me recentrer, pour savoir où sont mes limites et pour les dépasser.
Et c'est là donc que tu commences à avoir une idée en tête.
Exactement.
Et comment, alors, parce que là maintenant, il est temps de le dire, comment tu as cette idée-là? Parce qu'il y a plein d'aventures possibles autour de toi. Tu peux faire plein de trucs. Mais pourquoi celle-ci?
Pourquoi celle-ci? Parce que, souviens-toi, c'était fin septembre 2020, on venait de faire un swimrun tous les deux, et j'aimais bien l'expérience swimrun. C'était un petit peu à la croisée entre le triathlon et un nouveau sport. C'était une discipline enchaînée, et je me suis dit, c'est finalement quelque chose que, même si j'en ai fait qu'un, c'est quelque chose que je connais un petit peu, et donc j'ai envie de me lancer dans une aventure autour du swimrun. Je suis franco-italien, j'ai travaillé ces 15 dernières années au Luxembourg, qu'on peut assimiler un peu au Benelux, et je voulais essayer de me faire une aventure qui relierait un petit peu tout ça, c'est-à-dire le Benelux, la France et mes origines italiennes. Bon, à la base, j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus long, beaucoup plus improbable dans un premier temps, et puis après c'est la magie d'échanger avec des gens comme toi, des gens comme Seb, des gens comme Greg Runner aussi, d'aller piocher des infos pour arriver à imaginer, à construire ce défi dont on va parler, qui se cantonne sur un mois, plus que partir sur quelque chose d'énorme qui aurait pu durer 6 mois ou 1 an, comme l'a fait par exemple, comme est en train de le faire Marie Léoto ou alias Louty Runner, qui finalement traverse le monde en courant.
Oui, mais d'un autre côté, est-ce que toi, tu aurais vraiment pu partir faire le tour du monde en courant avec tes enfants,
Mais non, mais c'est bien pour ça que c'est quelque chose que j'aurais pas que recadrer les choses sur un mois, c'était une bonne idée parce que j'étais parti sur quelque chose de plus grand, mais il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, il y a la préparation et puis pendant le temps même du défi en fait de l'aventure, il y a comment est-ce qu'on fait quand on a des enfants, quand on est marié, et puis un point bête aussi, mais je suis pas millionnaire, donc comment on fait pour avoir de l'argent pour vivre et pour contribuer à la vie de la famille. Et finalement, un défi en un mois est, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus abordable, qui est énorme. J'en suis conscient et j'en suis de plus en plus conscient. Et ça tombe bien parce qu'il y en a d'autres qui vivent avec moi qui commencent à en être conscients aussi. Et donc plus abordable et qui permet d'allier tous ces paramètres-là.
Parce que ça veut quand même dire que pendant un mois, tu n'es plus chez toi.
C'est ça.
Tu n'es plus chez toi. Donc déjà, niveau logistique, c'est un truc un peu spécial. Et puis, parce que moi, c'est la question, tu vois. Enfin, franchement, le truc, je me dis, ta femme, là, elle te prend droit dans... Là, elle te regarde et te dit, pendant un mois, elle doit tout gérer.
Ouais.
Et toi, monsieur, cours et nage à c'est travers ça. La France.
C'est ça, exactement.
C'est ça.
Bon, alors c'est pas une décision, un choix qui est né aussi... Pas quelque chose qui est né, enfin, comment dire, c'est né un petit peu de nulle part, mais la décision finale, elle s'est pas faite d'une heure à l'autre.
Oui,
des échanges, des discussions, etc. Et je pense que cet état d'esprit dans lequel j'étais, où je me disais que il fallait que j'évolue, il fallait que je trouve un moyen de me recentrer un petit peu sur moi-même, de retrouver mes limites, de savoir où elles sont, de les dépasser, etc. Je pense que c'est aussi un état d'esprit que mon épouse a senti chez moi. C'est-à-dire que je me sentais enfermé, que je savais plus où aller, que je tournais en rond comme un hamster dans sa roue et qu'il fallait que j'explose les barrières de la roue et que je sorte de cette roue. Donc ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Ça a été des échanges, ça a été des discussions, ça a été des désaccords et des accords aussi. Et finalement, c'est un projet que j'imaginais préparer sur 18 mois. Donc on a tous eu le temps de se préparer à tout ça. Au fait que pendant un mois, je serai pas là et qu'il va falloir qu'elle gère tout. Mais ma femme est exceptionnelle, elle gère tout.
Bon, alors aujourd'hui, nous sommes le 25 février. Tu prends le départ à quelle date ?
Il était prévu que je prenne le départ au 30 avril. Mais j'ai un scoop pour toi.
Vas-y.
Eh ben, je vais décaler d'un mois. Je vais décaler d'un mois. Je vais plutôt prendre le départ fin mai pour faire ce défi au mois de juin et pas au mois de mai comme je l'avais prévu. Tout simplement parce que ça fait partie de la préparation d'un gros défi comme ça. Je pars pas sur quelque chose qui est organisé dans le cadre d'une compétition ou dans le cadre d'une, je sais pas si on reprend par exemple une Marine Leleu qui a fait l'enduro et qui a une date, une fenêtre et puis c'est maintenant et c'est pas autrement. Là, moi, mon défi, je peux le placer un petit peu quand je veux. Il est un peu glissant et donc j'ai des petits soucis au niveau du genou. J'ai fait tous les examens. Là, au moment où on enregistre, ça fait 2 heures que je suis sorti de chez le médecin, donc je sais exactement ce que j'ai, je sais comment je vais pouvoir résoudre le problème. J'ai pu en profiter pour déjeuner avec mon coach ce midi, donc on a recadré un peu tout ça et on s'est mis d'accord que mois de juin, ce serait une bonne alternative. Ça permet, entre guillemets, de rattraper les 2 semaines et demie là où j'étais à l'arrêt en termes de course à pied et puis de reprendre progressivement pour augmenter en charge jusque mars, avril, et puis décharger un petit peu sur mai et être frais pour le départ en juin.
Parce qu'il faut le dire quand même, c'est que t'as fait des semaines de préparation. Là, au mois de janvier, t'as enchaîné combien de bornes ?
Mois de janvier, j'étais sur 130 bornes par semaine.
Ouais.
Et février, j'avais commencé à attaquer des semaines à 150, mais j'en ai fait qu'une. J'ai pas été plus loin parce que j'étais blessé.
Oui, donc ça fait un gros volume à tenir pendant plusieurs mois.
Oui.
Pour arriver finalement, il faut y avoir une histoire de fraîcheur, etc. Et pour l'instant, on n'a toujours pas dit ce que tu allais faire.
Hein. Non.
Donc, on n'a toujours pas dit.
Je te laisse me guider, hein, moi je réponds aux questions. Hein.
Non, mais franchement, j'ai mon truc, hein, tu sais, l'aventure comme ça, là, on prépare le terrain. Tu sais, aujourd'hui, mon script, c'est le script de l'aventure du héros.
D'accord.
Alors, l'aventure du héros ne se terminera pas aujourd'hui parce que je te le dis déjà, tu seras réinvité après ton défi ou je sais pas quoi pour nous raconter comment ça s'est passé et comment tu pensais que ça allait se passer et comment finalement ça s'est réellement passé. Donc, ça sera en 2 épisodes, tu sais, c'est un peu...
Okay.
Voilà, donc t'auras une petite couronne de plus comme étant la local legend du podcast. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que là, on fait un peu durer le suspense, etc. Mais tu t'en vas... Donc, à partir du mois de... Tu m'as dit sur le mois de mai ?
Non, juin.
Juin, pardon.
Je vais y aller en mai, mais j'irai en juin.
Voilà, sur juin, Au mois de juin, monsieur va aller se balader sur les routes, comme ça, tranquillement, en courant et en nageant.
C'est ça.
Pour faire combien de kilomètres ?
Alors, pour faire une variation autour du 18, parce qu'il y aura 1800 km de course à pied, il y aura 180 km de natation, et si les calculs de Kumut sont bons, il y aura à peu près 18 000 mètres de D+.
D'accord. Et le 18 juin, tu fais quoi ?
Je sais pas, va falloir que je fixe ça.
Je te fais un appel. Hein.
Ça va.
On fera un appel. Ce jour-là, on fait un appel. Ça sera l'appel de spécialement. On fera un live. On fera un live Instagram. On fera un live pour l'appel. Je sais pas où tu seras. Tu sais où tu seras d'ailleurs ?
Le 18 juin, ouais, j'aurais passé Lyon. Je serai un petit peu en dessous de Lyon.
Ah, mais tu seras même pas très loin, dis donc.
Non, je serai pas très loin de chez toi. Tu pourras même prendre la voiture et venir me faire un coucou.
Écoute, si je me débrouille bien, que je trouve un vélo, je pourrais même venir te voir en vélo.
J'espère, parce que d'ici là, t'auras déjà ton gravel, normalement.
Ouais, alors ça, c'est pas gagné pour l'instant. C'est qu'un détail. Non, mais en plus, non, je le dis parce qu'on m'a proposé de me prêter un vélo, etc. Donc, sur le mois de mars, hein, faut que ça se décante un petit peu ces histoires-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que je ne roule pas. Je n'ai pas attaqué ma préparation, etc. Mais il faut voir aussi que j'ai mal au dos, j'ai ma sciatique, etc. J'ai tous ces trucs-là qui sont pas très bons. Donc là, je suis en phase de refabrication un petit peu de mon équilibre de sportif. Donc, tu pars d'où ?
Je pars de Dunkerque. Pour schématiser, parce qu'en audio, c'est pas facile. Je pars de Dunkerque, je descends quasiment tout droit direction Arles. Et à Arles, je tourne à gauche et je vais à la frontière franco-italienne à Menton.
Tac. Et ça suit la voie.
Ça suit la voie romaine Agrippa, enfin l'ancienne voie romaine, parce que maintenant elle n'existe plus, elle a été souvent recouverte notamment par des nationales. Donc ça suit l'ancienne voie romaine Agrippa, d'où le nom de ce défi qui s'appelle Agrippa 2022.
Voilà. L'idée quand même que je me dis, c'est comment tu as l'idée de choisir cette voie Agrippa, parce que bon, Dunkerque, tu pars en courant ou en nageant à Dunkerque ?
Non, l'idée, c'est à Dunkerque, c'est de mettre la dose de natation du jour. Et puis, tant qu'à faire, de relier deux mers. Donc, à Dunkerque, je pars en nageant. Je longe, je longe la plage pendant 2-3 km de natation. Et puis après, je me change et je pars en courant.
D'accord. Et là, donc, tu cours dans les terres. Mais tu as nagé quand, en fait, dans cette histoire ?
Eh ben, l'idée, c'est de nager tous les jours. Donc, en fait, là, on est en train de finaliser le parcours. D'ailleurs, c'est Knack qui a pris cet élément, ce détail, pour ainsi dire, entre guillemets, parce que c'est pas un détail, mais ce paramètre en charge. Donc, l'idée, c'est de faire 60 km par jour de course à pied et puis de nager tous les jours. Alors, jusqu'à Lyon, ça va être de la nage en piscine parce que déjà je suis pas un saumon donc je remonte pas les cours d'eau hein. Et puis parce que y a pas beaucoup de cours d'eau en fait entre Dunkerque et Lyon en ligne droite. Il y en a quelques-uns mais il y en a pas beaucoup là. Après Lyon, il y en a beaucoup plus notamment pour aller jusqu'à la Méditerranée. Dunkerque Lyon de manière générale, ça va être soit piscine, soit plan d'eau. Je pense notamment au plan d'eau du Canada à Beauvais qui est un endroit magnifique où j'ai déjà fait 3 fois le triathlon sprint de Beauvais et un petit coucou à Christophe d'ailleurs qui est du côté de Beauvais mais voilà, et on est en train de bosser de revoir un petit peu aussi le tracé pour s'assurer que le tracé passe par soit des plans d'eau soit parte ou arrive à des piscines.
Oui, parce que c'est pas évident cette histoire-là quand même de dire oui, je fais un swimrun à travers la France, etc. Si on regarde géographiquement et tout le monde se rappelle hein.
Les cours de collège,
les rivières, les fleuves, la lutte de séparation des eaux, tout ça. Il y a un moment donné, les eaux, elles partent du centre de la France vers le nord, et puis il y a une autre, elles partent du centre de la France vers le sud.
C'est ça.
Toi, par principe, déjà, il y a un moment donné, tu sais que tu ne peux pas prendre les rivières, parce que déjà, c'est des grands fleuves avec un courant qui est énorme, et en plus, comme tu dis, t'as beau être frétillant, t'es pas un saumon qui est capable de les remonter.
Exactement.
Donc c'est pas évident à calibrer cette histoire-là parce que dire je vais nager tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut aussi que tu aies une carte des piscines, des horaires de piscine, tu cales tous les trucs comme ça. Là.
C'est ça. Alors si on reste dans l'esprit swimrun, on peut aussi se dire que finalement je suis pas obligé de nager le matin, courir et puis nager le soir, mais je peux très bien partir en courant, nager une demi-heure dans une piscine, me changer, remettre mes affaires de course à pied, enchaîner sur une partie course à pied, et puis 3 heures après, retourner nager dans une autre piscine. Mmh. Bon, ça multiplie un petit peu la logistique, ça multiplie les coûts aussi, parce que bah, c'est bête, mais faut compter l'entrée à la piscine. Mmh. Mais c'est faisable. Bonne idée. On a quand même la chance en France d'avoir un beau maillage en termes de piscine. Mon idée, c'était nager dans les piscines un jour sur deux. Je m'explique. Quand je nage un matin, je cours. Et puis le soir, je nage pas puisque j'ai nagé le matin. Et le lendemain, je ne nage pas le matin, mais je nage le soir dans une autre piscine. Ça permet de diviser par deux le nombre de piscines nécessaires. Tu comprends? Mais ça va dépendre aussi du tracé et de si on trouve une piscine ouverte au moment où j'arrive, parce que c'est pas rare que les piscines, bah, t'en aies qui ferment à 16h. Mais si j'arrive à 18, bah, c'est raté, ils vont pas la réouvrir pour moi. Donc voilà. C'est des points qu'il faut que je remette sur l'itinéraire pour m'assurer qu'il y aura bien une piscine soit sur l'itinéraire, soit au départ ou à l'arrivée.
Et attends, s'il y a un auditeur qui t'entend, qui a une piscine chez lui.
Ouais, non, alors ça, j'ai déjà pensé, mais honnêtement, 6 km dans un bassin de 10 mètres, ça va être compliqué.
Ah, parce qu'en plus, t'étais fixé une. Oh là là, 6 km et tout. C'est-à-dire que tu dois faire 6 km tous les deux jours, en fait, en natation.
Ouais, bon, en fait, en natation, je me suis pas fixé de distance, mais j'aimerais bien rester sur cette variation autour du 18. C'est plus sympa. Ça fait une petite histoire à raconter, tu vois, 1800, 18 000 de D+, et puis 180 natation. Vu que le défi, il va se tenir sur 30 jours, bah, 180 divisé par 30, ça fait 6.
Ça se voit que t'étais dans la banque, hein, quand même, tu vois, parce que le mec, il nous calcule ça avec les intérêts composés, etc. et tout. Nickel. Bon, à la limite, les 180 à la fin, si tu les as pas, c'est facile. Non. Parce que tu prends la Méditerranée.
C'est ça.
Tu fais une grande ligne droite, tu reviens, tu fais des retours dans la Méditerranée, ça va le faire.
C'est ça. Alors après, je me suis pas encore mis dans l'état d'esprit de faire comme Lilian Doza, de faire pousser une barbe de 2 mètres sur laquelle je marche pour éviter les piqûres de méduses. Donc je pense que je resterai au bord quand même.
Et alors tu sais qu'il n'y a pas que Lilian qui a fait ça, parce que j'ai trouvé un explorateur anglais qui a fait ça, qui a une barbe aussi, et qui pour les méduses, qui expliquait que quand il s'est mis à faire il a fait le tour de la Grande-Bretagne en nageant.
Ok.
Et il aurait pu le faire en swimrun, mais je crois qu'il l'a fait en nageant. J'ai perdu son nom en plus. Lequel c'est, si c'est, je sais plus si c'est le Shane Conway ou je crois que c'est Shane Conway. Tu sais, c'est le mec qui a inventé le 487 challenge, qui a mis le truc là du concept.
Ah, le truc que t'as fait en janvier là.
C'est ça. Et donc il a une barbe et il expliquait que justement au départ il avait pas de barbe, mais c'était par rapport aux méduses, tous ces espèces de trucs là comme ça qui peuvent nager. Donc ça faisait une protection. C'est vrai que c'était une espèce de protection. Donc on a cette espèce de défi là comme ça. Tu te dis hop, je m'en vais sur le mois de juin, je pars de Dunkerque, j'arrive jusque dans le sud de la France, vraiment dans le sud de la France, comme ça et tout. Et là, moi, la question qui est, parce que on avait parlé avec des gens comme Iliès et compagnie, niveau logistique, où est-ce que tu dors? Comment tu manges?
Alors, niveau logistique, les choses se simplifient énormément, parce que dans la construction de ce défi, dans les 18 mois que j'ai eu pour commencer à le préparer, il y a eu des hauts et des bas. Au début, Paul, qui est l'entraîneur que j'ai rencontré quand je suis arrivé au Luxembourg, c'était l'entraîneur du club de triathlon dans lequel j'ai été, je me suis inscrit et puis où je me suis mis à commencer à rêver d'Ironman. On est devenus très amis et quand j'ai commencé à lui parler de ce défi, il m'a dit écoute, ça tombe bien, en 2022, je suis en retraite au niveau de mon vrai boulot, donc je pourrais t'accompagner. Depuis le début, on s'était fixé qu'il m'accompagnerait. On ne savait pas encore trop comment, s'il prendrait un vélo, s'il prendrait un camping-car, si voilà. Puis après, on a eu un petit moment où on s'est plus trop parlé, disons qu'on s'est un peu disputé sur certains points de détail et notamment du défi.
C'était quoi, c'est qui prend le lit du haut, qui prend le lit du bas
Non, c'était plutôt que en fait on a aussi un projet personnel et familial avec mon épouse et lui pensait que je pourrais pas gérer de front deux projets et moi je tenais à maintenir la date de ce projet tout simplement parce que je sais très bien que si je n'y vais pas en 2022, alors à la base j'aurais dit mai 2022 mais ça peut être juin 2022, je ne le ferai jamais puisque c'est là que le projet personnel avec mon épouse prendra le pas et de toute façon j'ai besoin de ça donc il faut que j'y aille.
Tu t'es senti, attends, c'est intéressant, tu vois, ça. On va là-dessus. Quand ton entraîneur, il te dit ça, là, ça te fait quoi? Parce que ça doit te dire, tu dois te dire, bon, il me fait bip, un peu. Ou tu te dis, attends, il a peut-être raison, ou alors, c'est vrai, parce que, franchement, Et t'es un sacré paquebot dans l'histoire, hein, parce que t'en charges la baraque. Hein. On l'a pas dit. Non, mais t'as 4 enfants. Mm-hmm. Le petit Elio, il a quel âge?
Le petit Elio, il a 18 mois et le grand Ryan, il a 23 ans. Donc ça va, il y a de la marge.
Bon, à peu près, les grands... Le petit, c'est s'occuper de lui, ça va. Les grands, peut-être qu'il faut un petit peu que tu t'occupes un peu d'eux. Donc t'as ça. Vous avez le projet avec la femme qui est en route, mais bon, sur lequel il y a beaucoup de boulot à faire.
Ouais.
Vous changez de pays?
Oui.
Vous avez... toi, tu veux te dire, je vais traverser la France comme ça et tout. Il y a un moment donné, bah, ton entraîneur, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Mais je comprends aussi qu'ils se disent, mais attends, il va finir par exploser.
Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est un petit peu... j'aime pas employer le terme disputé, parce que ce n'est pas le cas, Moi, je dirais que j'ai pris un peu de recul et lui, il était plutôt attentiste de voir comment ça allait se passer. Est-ce que j'allais pouvoir continuer à m'entraîner sans avoir de plan, sans être encadré? Est-ce que j'allais avoir la force, la niaque, l'énergie de continuer? Parce qu'on l'a pas dit, mais j'ai aussi des podcasts. Je veux aussi me reconvertir dans la vie professionnelle autrement que dans le projet uniquement avec mon épouse. Donc voilà. C'est clair que si tu prends quelqu'un que tu connais pas et qu'il te dit je fais tout ça, tu vas dire mais t'es malade, mais soit tu vas exploser, soit tu vas tirer une balle, enfin tu vas jamais y arriver. Après moi je suis persuadé que je pouvais y arriver, mais c'est vrai que non seulement au moment où mon entraîneur me dit on va penser à décaler à l'année prochaine ou dans 2 ans, bon, elle écoute pas le podcast donc je peux le dire, mais c'est vrai que mon épouse me disait aussi à peu près la même chose. J'ai pris un peu cher, notamment sur ma confiance en moi. Mais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadé qu'il faut que je fasse ce défi, qu'il faut que j'aille au bout de mes limites. Alors, peut-être que je le finirai pas. Peut-être qu'au bout de 2 semaines, je vais me réveiller un matin, je pourrais plus me lever, je me serais pété quelque chose, je me serais tordu une cheville, peut-être que j'aurais pris une bagnole qui passe par là et que j'aurais pas signalé mon intention de tourner à droite et, bon, voilà. Peut-être que j'irai pas au bout, mais je sais qu'il faut que je prenne le départ et que j'essaye et que j'apprenne où sont mes limites et que je les dépasse. Et ça, il faut que ce soit fait maintenant parce que en 2023 ou en 2024 ou en 2025, ce sera plus possible.
Donc, bon, là, forcément, c'est sûr. Non, mais après, c'est important cette histoire de confiance parce que, enfin, c'est vrai que ça te tombe un peu sur le coin de la figure quand même. Tu te dis ça et tout. Donc, on en revient à cette histoire de logistique. Il y a un moment donné, t'as plus vraiment de coach. Mais toi, tu as ton projet qui continue à avancer. Ton c'est coach, ça. Finalement, il revient?
Ouais, mais alors attends, je vais faire l'histoire quand même en entier. Donc, j'ai plus de coach. Donc, je m'entraîne tout seul. Et puis, je me dis, bon, au niveau logistique, ça va être un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Donc, je me mets à rêver de faire un petit peu comme fait Marie-Léoté, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire de prendre une poussette, tu sais, les grosses poussettes Iron Bob, et puis mettre mon matériel dedans. Et puis, aller d'hôtel en hôtel en poussant ma poussette tous les jours. Enfin, d'hôtel en piscine, en hôtel. En...
Ouais.
Et puis, bah, voilà, je continue à m'entraîner. Je monte en charge. Je commence à me dire qu'il va peut-être falloir que je trouve une poussette pour mettre des briques dedans pour pouvoir m'entraîner à pousser quelque chose avec du poids. Parce que courir sans rien ou à la limite courir avec un sac à dos et courir en poussant une poussette ou en tirant une carriole, c'est pas la même chose. C'est pas le même effort. C'est pas le même. Je trouve plus les mots. On ne convoque pas les mêmes groupes musculaires. J'ai trouvé une belle expression. Donc,
ça fait expert, ça.
Attention. Ouh, hein. Yes. Et donc, voilà, je modifie un petit peu mon entraînement. Puis, je sais pas, hasard de la vie fait que... c'est pas tout à fait un hasard, mais voilà, je recroise mon entraîneur et puis on prend un café et puis on discute. Et puis en fait, c'est comme si on s'était pas vu là, depuis 3 jours, quoi. Et puis il me dit, t'en es où de ta prépa? Écoute, ma prépa, j'avance, voilà. Je monte à 100 km par semaine. Je commence à chercher une poussette, une solution, les hôtels. Je les place sur le parcours et tout. Et puis là, il me dit, mais non, mais moi, je t'ai dit que je t'accompagnais. Pourquoi tu cherches des hôtels? Donc on y va, on continue. Et puis... Il me dit, en fait, j'ai réfléchi, mais l'hôtel, c'est bien, mais si je prends un vélo, quand tu vas courir et que je te suis en vélo, ok, je serai à côté de toi, mais tu vas être trempé, moi, je serai trempé, s'il pleut, ça va pas être confortable, ni agréable, ni pour toi, ni pour moi. Donc, pourquoi pas opter pour la solution du camping-car? On dort dans un camping-car tous les soirs, et puis, moi, je te rejoins à des points étapes. Donc on dit, je sais pas, tous les 10 ou 15 kilomètres, je cours et puis je retrouve au 15e kilomètre plus loin et puis on fait le ravitaillement, on refait les niveaux d'huile, d'essence, etc. Et puis je repars pour 15 bornes et je le retrouve 15 bornes après. Donc voilà, c'est l'option qu'on a choisie, c'est-à-dire camping-car pour se déplacer, déplacer le matériel et dormir. Parce qu'il y a un truc tout bête, mais quand on parle du matériel, par exemple, ne serait-ce qu'en termes d'hydratation.
Ouais.
Et on en parlait justement ce midi avec mon coach quand on a mangé ensemble. Est-ce que tu sais combien on a estimé de besoin en eau pour ce mois de défi?
Ah, écoute, attends, moi je vais te dire un truc, c'est facile, c'est un multiple de 180. C'est très, 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 très simple cette histoire. C'est à peu près 180 litres d'eau à boire, plus environ 1800 litres d'eau pour prendre ta douche, pour te rincer après chaque trempette dans des lacs qui sont totalement hors de contrôle parce que dessus, tu passes dans des centrales nucléaires, tu passes dans des trucs comme ça, etc. Voilà, non, il te faut quoi? Il te faut 20 litres d'eau par jour.
Non, on était parti. Alors, juste en termes de réhydratation, pour moi, on considérait déjà 6 litres par jour.
T'as vu, je t'ai dit 180 litres d'eau pour boire. T'as vu?
Donc 6 litres fois 30 jours.
180. Non mais je te l'ai dit, je viens de te le dire.
Mais oui.
Non mais écoute, écoute.
Et donc c'est tout bête. Mais ça c'est juste pour me réhydrater moi dans mon défi. Donc en plus si Paul a soif, enfin, il va falloir qu'il boive aussi.
Ouais,
voilà,
c'est un détail ça.
Voilà. Donc il va falloir.
Au mois de juin, franchement, il y a des chances qu'il fasse chaud. Il peut faire chaud quand même. Hein.
Donc il va falloir, c'est tout con, mais il va falloir trimballer 180 bouteilles de flotte. Et ça, sur un vélo, c'est un peu compliqué. Alors que si tu pars avec un camping-car...
Oui, mais là, tu demandes à la CNAC. Tu demandes, tu dis, fais-moi passer par des cimetières.
Pourquoi par des cimetières?
Parce que, alors ça, c'est un truc que les gens doivent savoir. Si vous partez à l'aventure, que vous cherchez de l'eau, passez par le cimetière. Il y a dans tous les cimetières, il y a de l'eau fraîche avec des robinets d'eau systématiques.
Ouais, mais c'est pas forcément de l'eau potable.
C'est quasiment à coup sûr. Je peux te garantir. Tu peux demander à ceux qui partent à l'aventure. Normalement, j'aurais dû avoir un invité que j'ai. Enfin, on n'a pas enregistré, mais j'espère qu'on enregistrera. Mais tu peux demander à des Filufo et compagnie, à des gens comme ça et d'autres. Ils te diront, c'est le point de passage dans les cimetières. C'est un truc qui est peut-être pas assez connu, hein, comme ça. Et les mecs, ils te dérangeront pas. Tu sais, il y a personne qui va te regarder. Ils vont pas te taper sur l'épaule en disant, hey, t'es en train de piquer mon eau ou quoi que ce soit. Les cimetières, il y a quasiment tous les cimetières, parce qu'il y a des fleurs à arroser et tout, ont de l'eau, avec des robinets d'eau, d'eau potable, etc., parce que c'est branché sur le truc. Donc, je te le dis quand même, hein, tu peux si tu vois un cimetière avec ta soif, regarde dedans, tu verras, t'as un robinet. Et moi, j'ai vérifié, parce que j'ai des cimetières autour de la maison, il y a systématiquement, ils ont des robinets d'eau qui sont là pour arroser, tu sais, vers les entrées, etc.
Ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que quand tu l'as dit, je pensais à cette histoire de robinet. Après, je me souviens qu'il y a un cimetière à côté de là où j'habite à Luxembourg et il y a un grand panneau eau non potable. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'eau non potable ou est-ce que c'est juste que les mecs en avaient marre qu'on vienne leur piquer de l'eau?
Ils en ont marre des mecs qui courent. Et tu sais, à Luxembourg, ils en ont marre des mecs qui courent. Eux, ils veulent des mecs qui consomment, qui ont des gros 4x4, qui consomment, qui boivent de la bière ou du vin, qui vont dans les bons restos, etc. Ils ont pas mis autant d'argent de côté et tout et autant arnaquer le monde et l'Europe avec ça pour foutre de l'eau gratuite.
Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quoi? Le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal.
Non, le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Non, c'est vrai, t'as raison. Allez, un autre sujet. On fera ça dans un débat podcast sur les paradis fiscaux si tu veux un jour, on en reparlera. Bon.
Ça va.
Donc, vous partez en camping-car?
Oui.
Waouh, ça va être cool.
Ouais. Alors, on n'a pas encore trouvé le camping-car. Là, on est encore à quelques jours du départ. Donc, soit on va louer un camping-car, ce qui est une option. Soit on va essayer de se faire sponsoriser par un loueur de camping-car. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour positif. Donc, c'est toujours éventuellement l'option location qui reste ouverte.
Ouais, c'est parce que je me dis, ça doit quand même revenir moins cher que de louer des hôtels ou des Airbnb tout le long quand même là, cette histoire.
Oui et non. Bah alors, si on est deux, oui, ça revient moins cher parce qu'en gros, la location d'un camping-car, c'est 3 à 4 000 euros pour un mois et on peut dormir à deux dans le camping-car. Parce qu'en gros, on a plus ou moins deux petites chambrettes quoi. Enfin, on a deux lits indépendants. Si on prend l'option hôtel. comme je partage pas forcément mon lit avec Monsieur Poilu, et ben il faut deux chambres d'hôtel. Et là, on n'est plus sur le même budget, parce que si on considère entre la chambre d'hôtel et la nourriture 100 euros par jour par personne, ben, ça fait 200 euros sur 30 jours, ça fait 6 000 euros. Ben, le budget est rapidement fait. Donc, effectivement, ça coûte un peu moins cher en camping-car. Mais dans l'hôtel, on ne met pas l'essence, alors que dans le camping-car, on met l'essence.
Oui, c'est ça. Et de notre côté, après, bon, après, dans le camping-car, tu peux cuisiner aussi. Enfin, parce que c'est ça, après, mon autre question, c'est le ravitaillement. T'as prévu, tu sais ce que tu vas manger? Parce qu'en plus, faut le dire. Faut le dire. Ce que nous a pas dit Armano, ce qu'il ne vous a pas dit, mais moi, je le sais, c'est qu'en plus, t'as un régime alimentaire un peu spécial quand même.
Bon, un peu spécial, écoute, pas si spécial que ça. Disons que je suis presque végétalien, presque, parce que j'ai gardé le fromage. Mais oui, mais écoute, ça fait partie, pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie de cette un peu, alors c'est pas prise de conscience, mais cette recherche de mieux-être. Mmh. Voilà.
Oui, mais alors, enfin, est-ce que tu sais combien de calories tu vas dépenser par jour?
On a estimé qu'à peu près je serai entre 8 et 10 000 par jour.
Comment tu veux remplir ton carburant avec 8 ou 10 000 calories par jour en mangeant? Tu manges quoi? La salade, des légumes,
des fruits, des légumes, des légumineuses. Les lentilles, avant de décider de faire un test pour devenir végétalien, je détestais ça.
Ouais.
Et puis j'ai découvert les lentilles corail, les lentilles du puits, les lentilles beluga, j'ai découvert les pois chiches, j'ai découvert les haricots verts, les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots noirs. Et en fait, tout ça, c'est d'énormes sources de protéines. On n'a pas forcément besoin de manger de la viande ou du poisson pour avoir des protéines. Et en plus, on les assimile un peu mieux, en général. Donc, écoute, c'est pas compliqué, hein, le plan pour l'alimentation, pour le ravitaillement. Si on est en camping-car, c'est encore mieux parce qu'effectivement, on peut tout cuisiner nous-mêmes. Donc, en plus, on contrôle ce qu'on met, on contrôle les quantités. Je dois dire aussi que depuis quelques temps, j'ai une certaine aversion pour l'industrie alimentaire. Et en plus, depuis que j'ai écouté un épisode avec quelqu'un que t'as invité, mais j'avais déjà beaucoup de questions, beaucoup d'aversion sur ce sujet-là, mais avec ton invité, ça s'est pas arrangé.
Qui c'est que t'as écouté? Dis-le, parce que quand même...
Je me souviens plus de son nom.
Anthony Fardet?
Voilà, c'est ça.
Oui, Anthony Fardet. Donc, un épisode de Sport et Nutrition avec Anthony Fardet où on parlait justement de la transformation alimentaire, de la matrice, de l'importance de manger des aliments complets, non pas détruits en petits morceaux, etc. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, j'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent un petit peu depuis. Ouais. Ça a fait un peu réfléchir cette histoire-là.
Alors après, ça, quand tu l'écoutes, il va loin hein, dans sa démarche, c'est-à-dire que même si tu cuisines toi-même tes légumes, en fait, le fait de les faire cuire, ça les transforme déjà. Alors c'est pas de l'ultra transformation comme ce jeu entre guillemets auquel ça donne l'industrie alimentaire, mais bon, je m'autorise quand même un peu d'aliments transformés parce que je cuisine moi-même. Enfin, je cuisine, mon épouse cuisine, mais je veux plus faire confiance à toutes ces saloperies qu'on se met dans le gosier et qui émanent d'une industrie agroalimentaire qui est pas forcément là pour nous faire plaisir, nous faire grandir, mais plutôt pour nous faire dépenser des sous. Ça fait un peu extrême comme mode de pensée, mais voilà.
Attendez, quand même, messieurs, mesdames, il faut qu'on fasse une petite pause. Je vous rappelle quand même que cet homme, à une époque, carburé avec je ne sais combien de GL pendant ses marathons, etc., avec une alimentation...
Et tu sais pourquoi c'est depuis que j'ai pris de la crème solaire à la place du gel? Voilà, ça m'a ouvert les yeux.
Oui, voilà. Et le jour où t'as fait un marathon, où t'as pris de la crème solaire au lieu de prendre un gel et que tu t'es rendu compte quand même que c'était pas très bon, ce jour-là a commencé une longue transformation de ton alimentation. Non, mais c'est vrai, on en avait parlé sur cette histoire d'alimentation, etc. C'est vrai que tu disais pratiquement végétalien. Et tu l'as fait parce que c'est ça qui m'a fait rire en plus. Tu m'as dit tu l'as fait du jour au lendemain, toi, ton truc, tu es bam comme ça, quoi.
Ouais. Je l'ai fait du jour au lendemain et je me suis dit je vais tester pendant un mois ou deux. C'était en novembre 2019. Et puis j'ai testé jusque fin d'année 2019 et puis 2020 l'année 2020 commençait et puis ça se passait bien et puis je retrouvais surtout du plaisir à manger le plaisir à manger. J'ai toujours été un gros mangeur, donc j'ai toujours eu du plaisir à manger, mais avant j'avais plutôt du plaisir à avaler. Là je retrouve du plaisir à savourer les goûts, savourer le goût des aliments. Donc j'ai voulu poussé jusque mi-juin, enfin mi-2020, et puis là le Covid est arrivé, et puis je suis resté dans mon test, et puis après il y a eu cette idée de défi fou qui est née, et je me suis dit je vais rester végétalien jusqu'à la fin de mon test, enfin jusqu'à la fin de mon défi, et puis je suis très bien dans cette alimentation là. Faut le dire quand même que dans ma famille il y a beaucoup d'allergies alimentaires, donc on avait déjà pris cette habitude de quasiment tout cuisiner. Et donc faire trois services ou faire quatre services, ça change pas grand chose.
Mais après, par contre, tu vois, pour revenir sur les, parce que il y a quand même, tu me dis oui, mais non, les lentilles, j'adore ça et tout. En plus, tu vas passer dans des coins où il y a des producteurs de lentilles, parce que tu seras pas très loin, t'es pas passé très loin du Puy, tu vas dans ces zones-là. Il y a plein de zones, etc. Mais bon, par exemple, des lentilles, il faut les faire tremper. Ça met un petit peu de temps à cuire. C'est pas le truc le plus facile à faire cuire quand t'es dans un camping-car quand même.
Ouais, c'est vrai. Mais alors, j'ai vraiment adoré j'adore vraiment les lentilles corail. Tu sais, c'est ces petites lentilles rouges. T'as pas besoin de les faire tremper. Ça cuit en 5 à 7 minutes. Même sur un feu qui est pas très fort, comme on peut trouver dans un camping-car. Donc, je pense que pendant quelques jours, je vais m'alimenter, je dirais pas exclusivement, mais je vais m'alimenter de pas mal de lentilles corail. Et puis, comme je disais, Paul, il va prendre le camping-car et on va se retrouver à des étapes de 10-15 kilomètres. Donc, il aura le temps de faire la cuisine.
Alors, moi, j'aime bien les vacances de Paul. Mec, il va commencer sa retraite avec la cuisine, conduire, faire le ménage, faire la lessive, nettoyer les caleçons de Monsieur Hermano pendant que lui, il va courir et nager tranquillement. Donc, toi, tranquillou, quoi. Ton entraîneur, il commence sa retraite en s'occupant de toi, en s'occupant de la popote, en s'occupant du ménage, en s'occupant de ta lessive et tout pendant un mois. Monsieur va courir au soleil avec ses petites lunettes, son petit casque et ses chaussures minimalistes. On l'a pas dit, hein. Parce qu'en plus, monsieur est devenu minimaliste aussi dans la course, etc. Je t'ai pas demandé, tu passes au Cap d'Agde?
Non, je crois pas. Non.
Ah, parce que t'aurais une étape full minimaliste dans ce cas-là que t'aurais pu faire, ça aurait été drôle, ça aurait été vraiment très drôle. Donc là pour l'instant, on va dire que t'en es à l'étape où bon, il faut trouver un camping-car, faut t'entraîner, vous êtes en train d'avoir le parcours qui est en train de s'affiner, on va dire.
Ouais, c'est ça qui s'affine. Knack a bien bossé jusqu'au jour, jusqu'à la 15e étape. Lui, il travaille sur des étapes assez détaillées. Et puis, nous, on va repasser un petit peu dessus avec Paul, justement, pour placer les points de ravitaillement, pour placer les étapes dans les piscines, ou dans les plans d'eau, ou dans les rivières et autres. Voilà. Donc on va affiner un petit peu plus après, mais Knack travaille déjà sur le premier. Enfin, sur un travail, il dégrossit déjà beaucoup le travail.
Est-ce que vous avez mis des marges? Parce que l'avantage du camping-car, remarque, c'est que si un jour tu fais 70 bornes au lieu d'en faire 60, tu peux le faire. Et si le lendemain tu n'en fais que 40, tu peux le faire.
Oui, tout à fait. Alors après, Paul est plutôt partisan du fait de planifier un peu à l'avance et de s'efforcer d'avoir une régularité dans le parcours, pour la bonne et simple raison que au 13e jour, si j'ai la patate et que je veux courir 80 bornes, c'est bien, mais il en reste encore 17 derrière. Donc plutôt d'essayer d'être régulier et faire attention à la machine, et tant qu'il n'y a pas d'alerte, ne pas s'enflammer. Alors sur les derniers jours, je dis pas, si j'ai envie d'aller nager 8 bornes au lieu d'en nager 6 parce que tout se passe bien, ou alors si j'ai envie d'en courir 80 parce que je suis au 29e jour et puis que j'ai envie de gagner une journée, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas avant. Restons raisonnables. Par contre, on va jouer sur une chose, et ça c'est déjà prévu avec Paul, c'est que je vais partir le matin, on va faire une pause, un goûter à 10h, on va faire une pause le midi pour manger, une vraie pause, où là je vais me changer, s'il y a une douche dans le camping-car, je vais prendre une petite douche, je vais manger, je vais faire une petite sieste, puis je vais repartir sur l'après-midi, pareil, un peu de course, la pause goûter, et puis recourir derrière. Mais on s'est dit qu'on allait jouer sur le volume, dans ces tranches-là, c'est-à-dire parfois on va faire 30 bornes le matin, parfois 30 bornes l'après-midi, parfois on va faire 20 le matin et 40 sur la partie de l'après-midi, etc., pour jouer aussi un petit peu sur l'aspect volume et charge au sein du défi.
Mais il y a un truc qui est imprévisible, mais le mois de juin, il peut faire. Alors, Dunkerque, bon, tu partiras en pull, c'est pas un problème. Mais
non, je partirai en néo, t'as pas suivi, je t'ai dit que j'allais nager.
Tu partiras en néo complète jusqu'au bout des orteils, etc. Mais il peut faire chaud. Donc, ça veut dire que tu peux être obligé de dire, par exemple, partir courir très tôt le matin, en faire 40 tôt le matin, parce que, enfin, à 10 heures, quand tu vas arriver vers Arles et compagnie, fin juin, je pense que l'après-midi, c'est plutôt grosse sieste.
Ouais, mais je te rappelle que le défi va se dérouler sur un mois. Donc, en général, c'est pas je me couche un soir, il a fait 15 degrés dans la journée, et puis je me réveille le lendemain matin, il en fait 35. Tu vois?
Ah, si tu viens en Auvergne, ça pourrait arriver. Tu sais, ça, t'es pas à l'abri de ce truc-là chez nous, mais bon, ça, méfie-toi.
Mais je fais que des étapes de 60 km par jour.
Les Auvergnats, et puis les Romains ont soigneusement évité l'Auvergne pour faire ce truc-là, parce qu'ils savaient que chez nous, on a des irréductibles Gaulois, tu sais, Vercingétorix et tout, et comme ça. Donc nous, on a une autre route, la nôtre, vraiment spéciale, tu sais, une petite route qui passe comme ça, qui partait plutôt vers l'Atlantique, tu vois, plutôt vers comme ça.
Mais il y a la Via Agrippa qui va vers l'Atlantique aussi. Hein,
même si on avait le chemin vers Lyon, hein, bien entendu, hein, Lugdunum. Mais bon, bref, non, mais c'est vrai que cette histoire de météo, c'est imprévisible, parce que de toute façon, tu peux pas le prévoir, cette histoire-là.
Non, tu peux pas le prévoir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, on opte plutôt pour la solution camping-car, parce qu'il peut faire très chaud, mais il peut aussi pleuvoir pendant 4 jours d'affilée. Et donc, finalement, moi, de toute façon, je courrais, qu'il pleuve, qu'il neige, au mois de juin, j'y crois pas trop, qu'il vente. Mais par contre, pour celui qui me suit, s'il reste sous la flotte pendant 4 jours, ça va être une horreur. Donc, il aura le camping-car, il sera au chaud, il sera couvert, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis oui, c'est imprévisible. Ça fait partie des difficultés du défi. Mais comme je te dis, je doute que du jour au lendemain, je prenne 20 ou 30 degrés d'un coup. Donc, j'aurai aussi le temps de m'habituer, entre guillemets, à ce changement de climat entre le nord et le sud. Quand on est en voiture et qu'on fait Dunkerque-Arles, on le fait en 10-12 heures. C'est sûr que le matin, tu montes dans la voiture, il pleut. Et le soir, tu arrives à Arles, c'est grand soleil. Et puis, le soleil n'est pas encore couché, qui fait encore 25 degrés. Quand tu cours 60 km par jour, tu n'as pas cette variation quand même climatique du jour au lendemain.
Oui, bon, ça c'est sûr. Il y a un truc qu'on
d'accord,
a pas...
tu me l'accordes la réponse ?
Je te l'accorde, je t'accorde la réponse, je veux bien te l'accorder. On valide la réponse. Hein,
et
de toute façon, je t'ai dit, je le répète, comme tu reviendras après pour nous raconter comment ça s'est passé, on vérifiera point par point si ce qui s'est passé, ça s'est passé comme tu avais prévu ou pas. De toute façon, il y a forcément de l'imprévu, sinon ça ne serait pas une aventure, mais un voyage organisé.
Et même dans un voyage organisé, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Regarde ceux qui sont partis en voyage organisé en Ukraine en ce moment.
Ouais, mais là, bon, ils avaient un petit peu annulé un petit peu leurs vacances un petit peu à l'avance. Il y a une question que je me pose, c'est que est-ce que Knack te fait passer par toutes les brasseries sur lesquelles il y a un passage ou pas pour que tu lui ramènes une bière à l'arrivée ?
Il pourrait, mais ça aussi c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que je bois plus d'alcool non plus depuis 2 ans.
Bam, voilà.
En fait, comme dirait mon père, je suis devenu chiant, quoi. Je mange plus de viande, je mange plus de poisson, je bois plus d'alcool. Je pense qu'à faire du sport, c'est un point de vue.
Et t'arrives chez ton père.
J'ai pas besoin de ramener de bière.
Et t'arrives chez ton père, ton truc là.
Non, je vais passer pas très loin de chez mon père, mais je vais pas arriver.
Tu t'arrêtes
mon père,
pas, en fait.
Il est entre Nice et Cannes, donc il est un petit peu avant Menton.
Ouais, donc tu t'arrêtes pas, tu continues tout droit. Et tu te dis, ah, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Non, parce que Knack, et on va l'avoir bientôt, Knack, parce que je l'avais invité, mais j'attends qu'il finisse son défi à lui, là, avec son vélo et tout. Et on a dit qu'en mars, il y aura un épisode avec lui, donc on l'aura. Toi, tu attaques le mois de mars, tu seras le premier épisode du mois de mars, en fait, pour te dire.
Oh, quel honneur.
Tu te rends compte.
C'est le mois de mon 42e anniversaire, en plus.
Ouais, punaise. Et ouais, tu vois, il y en a pour leurs 42 ans, ils auraient fait un marathon, mais toi, tu vas faire. Traverser la France comme ça et tout. Non, mais franchement, c'est beau, et ce qu'on n'a pas dit. C'est que tu le fais aussi pour des bonnes causes.
Bah oui, parce que tant qu'à faire, déjà aller chercher le dépassement de soi, aller titiller ses limites, voire même les dépasser, je veux pas le faire que pour moi. Donc je voudrais défendre deux causes qui me sont chères. La première, c'est une association qui lutte contre le cancer des enfants, enfin plutôt qui lève des fonds pour lutter contre le cancer des enfants et qui s'appelle Imagine for Margot. Et puis la deuxième, c'est une association qui éveille les consciences au changement climatique. et qui s'appelle Une bouteille à la mer. Alors peut-être que tu vas me poser la question de pourquoi ces deux associations-là. Écoute, j'ai pas été chercher très loin. Hein. La première, j'ai un copain qui a perdu son fils qui avait 16 ans justement d'un cancer du cerveau, d'une tumeur au cerveau, et je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais quelque chose en son honneur pour lui rendre hommage. Et comme dans mes collègues aussi bien professionnels que sportifs, il y avait le fondateur de l'association Imagine for Margot qui lui aussi a perdu sa fille adolescente d'un cancer. Eh bien, voilà, c'était déjà tout tracé, tout trouvé. Et puis la deuxième, parce que j'ai reçu Mathieu Navillo dans un de mes podcasts qui s'appelle Dans les vestiaires, et c'est fondateur de l'association Une bouteille à la mer. Et voilà, depuis que je l'ai reçu et que j'ai découvert le magnifique travail qu'il faisait, je lui ai dit que je le soutiendrais d'une manière ou d'une autre. Donc je soutiens ces deux causes-là.
D'accord. Comme ça, c'est important de le dire. On le dit aussi, hein, c'est qu'il y a un site, agrippa.me. Alors, il y a deux P à Agrippa, hein, faut bien le préciser, sur lequel il y a les liens hein, pour même t'aider aussi, parce que
oui.
Tu le dis, hein, t'es pas Crésus, ça coûte un petit peu de sous cette histoire-là, donc on peut te soutenir.
Oui, on peut me soutenir via la plateforme Patreon, patreon.com/hermano, ou via une autre plateforme qui s'appelle Ko-fi, que j'ai découvert il y a pas très très longtemps, qui est très sympa et en plus qui a l'avantage d'écouter beaucoup moins cher que Patreon. Parce que Patreon, ils t'annoncent qu'ils prennent entre 8 et 12%, soit, mais ça c'est que la première partie des frais. Parce qu'il y a aussi des frais de transaction, puis il y a aussi des frais de conversion de devises, et puis il y a aussi les frais de trucs, de machin, de bidule. Ce qui fait que j'ai un copain qui a mis une grosse contribution mensuelle sur Patreon, et quand on en discutait pour que je le remercie chaudement pour sa contribution, il m'a dit mais attends, mais moi c'est pas ce que je donne. Je donne juste 20% de plus, j'ai regardé du côté de chez Ko-fi, et Ko-fi en fait ils sont soit à zéro soit à 1,8% qui est la commission que prend PayPal.
Et il faut le dire aussi, Ko-fi a un gros avantage, c'est que Ko-fi on peut faire du one shot et on n'est pas obligé de faire de l'abonnement, on peut faire du one shot. Moi, ça fait partie des plateformes où j'avais regardé aussi Ko-fi en me demandant si on pouvait pas migrer et si l'avenir, l'évolution du rassemblement de mes différents patrons ne se ferait pas sur Ko-fi. Même si il n'y a pas les podcasts privés sur, il n'y a pas le flux privé de podcasts, donc ça, c'est un petit questionnement que j'ai, mais qui est une plateforme qui est intéressante pour tous ceux qui ont des projets. Je rappelle par contre juste l'écriture de Ko-fi, c'est K-O-F-I.
C'est KO-FI.
Oui, et c'est encore pire que ça. Je le dis parce que je l'ai vu dans un bouquin, le pape de la micro-aventure, Alistair Humphreys. Il est aussi sur Ko-fi et dans son bouquin, les adresses étaient mauvaises. J'avais envoyé un mail en disant attention, les adresses sont mauvaises. Parce que c'est vrai que ça s'écrit pas si facilement que ça et tout. Il faut se méfier un peu quand on partage les adresses Ko-fi. C'est vrai que c'est pas le nom est sympa parce que c'est le principe d'offrir un Ko-fi, quoi.
C'est ça.
C'est le principe comme ça. Buy me a coffee, mais par contre, il faut se méfier un petit peu sur l'écriture. Donc, je le redis, c'est KO-FI. Bien sûr, il y a tous les liens sur ton site. Je mettrai bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, dessus, on peut voir un bout de tracé. Hein. Sur ton site, il y a un bout du tracé qui commence à apparaître.
Oui, j'ai pas mis à jour cette page-là et c'est pas bien parce que je voudrais mettre à jour au fur et à mesure, mais il y a un bout du tracé qui commence à apparaître. Je vais en mettre un petit peu plus au niveau des étapes. Il y a aussi le communiqué de presse sur lequel on a travaillé notamment avec une hamster. Alors j'ose pas dire son prénom parce que je veux pas la mettre mal à l'aise. Donc avec une des membres du Hamster Running Club qui se reconnaîtra, puis les autres la reconnaîtront aussi parce que c'est quelqu'un qui est très actif, notamment dans le cappuccino et qui habite dans le nord de l'Europe. Désolé, tu dois entendre le petit qui hurle.
T'inquiète pas, j'ai l'habitude de la maison.
Ça va. Voilà, on a travaillé sur un communiqué de presse on va contacter les différents journaux, que ce soit locaux ou nationaux, au fur et à mesure, sur un mois glissant en fait. Vu que mon défi va prendre un mois, on va commencer à contacter ceux du nord de la France un mois avant le départ du défi. Puis chaque jour, on va descendre au fur et à mesure de manière à les informer qu'il y a un taré qui va faire un truc dans leur région. Et s'ils veulent me donner la parole ou en parler, ce serait vraiment super sympa.
Oui, en plus, pour eux, c'est du pain béni, ce genre de choses, parce que ça leur fait des sujets, des trucs intéressants, ça fait quelques photos. Les radios, ils adorent ça aussi. Enfin, voilà, la presse locale adore ces trucs-là. Donc, moi, je me dis, t'auras des gens, et puis France 3, il suffit que t'aies un France 3 qui arrive à que tu repères France 3 un jour, tu verras, ils seront friands de ce genre de trucs-là. Et donc, on a tout sur ton site. Hein, on retrouve tout sur ton site. Bien sûr, je t'ai dit, je te réinviterai après pour faire un bilan après.
D'accord.
Parce que on va se demander comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient venir courir avec toi.
Ouais. Il n'y a pas de souci. En fait, déjà, le nom du site, je voulais rendre aussi hommage à Sylvain, qui s'appelle Agrippa, parce que c'est le défi Agrippa, mais .me, parce que pour ceux qui sont... qui maîtrisent une des langues latines, notamment l'espagnol ou l'italien, finalement agrippame, ça veut dire attrape-moi. Voilà, c'est un petit jeu de mots sur cette histoire, et ça permet de reboucler sur ta question. S'il y a des gens qui veulent faire un petit bout de chemin avec moi, qui veulent fouler un peu le bitume, c'est avec grand plaisir. Moi, on en a parlé au début de cet épisode. Pour moi, le sport, c'est pas que quelque chose de solitaire, c'est aussi quelque chose qui se partage, c'est communautaire. Et donc, plus on est de fous, et plus je m'éclate.
Et ben voilà. Et ben écoute, comme ça, on sait tout. Donc sur le site, on a tous les éléments. Il faut juste préciser que la date du départ, parce que sur le site, pour l'instant, c'est pas bon, mais tu vas nous la repréciser la date.
La date, ça va être le 31 mai, et je vais partir pour fouler cette Via Agrippa tout le mois de juin.
Donc 31 mai, départ de Dunkerque, ou à côté de Dunkerque, dans cette zone-là, là, pas très loin.
À Bredune, en fait, exactement, vraiment à la frontière franco-belge.
À frontière franco-belge, et ensuite ça descend, tu passes pas très loin de Paris, mais pas dans Paris.
Non.
Bah pourquoi, t'aurais pu faire un petit bisou à la Tour Eiffel.
Ouais, mais j'ai déjà du mal au Luxembourg avec mon vélo et les voitures, je vais éviter d'aller courir sur le périph'.
Oh, attends, ouais, t'aurais fait la bise à Iliès et compagnie, il serait venu te voir et tout, il t'aurait fait faire la bise à Tour Eiffel. Donc après, ça va descendre. Il y a quand même un truc, vous avez trouvé des petites routes pour descendre partout, parce que, attends, je me dis, attends, pour descendre dans ce coin-là, il y a la 6 et compagnie, les autoroutes, mais comment tu fais pour faire des... Vous avez trouvé des petites routes?
Ouais, Knack, il a trouvé des trucs géniaux. En fait, au départ, je et Knack aussi travaillaient sur Komoot. Mmh. Et en fin de compte, on s'est vite rendu compte que Google Maps option vélo, ça marchait quand même vachement bien.
Ouais.
Et donc du coup, on met le point de départ, on met le point d'arrivée, et puis on demande l'itinéraire vélo sur Google Maps. Et puis après, il suffit de zoomer et de s'assurer qu'on traverse pas soit des grosses forêts, parce que ça aussi, c'est un des inconvénients de Google Maps, c'est que si tu lui dis itinéraire piéton ou itinéraire vélo, des fois, il te fait traverser des forêts. Et je me suis paumé déjà plusieurs fois dans la région. S'assurer qu'il y a un petit chemin qui passe, et puis ça fait bien quoi.
Donc voilà, donc vous descendez, tu descendras direction, on va dire, la région parisienne, mais en faisant le tour finalement de Paris. Après sera direction, faut partir vers Auxerre après, on va dire, dans ces zones-là.
C'est ça. D'ailleurs, ce que Knack voyait sur le tracé, c'est que Auxerre, apparemment, c'est la merde. Mais il a réussi à trouver des choses.
Écoute, et Auxerre est une ville très connue, surtout pour ceux qui ont parlé de foot au début, pour ceux qui connaissent le foot. Mais en fait, tu te rends compte quand même qu'Auxerre, c'est une toute petite ville, quand même, dans ce coin-là. Il y a beaucoup de vignes en plus. On est dans des zones, après, il y a beaucoup de vignes dans ces zones-là. Ensuite, tu files. Et là, tu traverses le Morvan quand même, d'après ce que je vois, dis donc.
C'est possible. Je connais pas très bien la géographie française, tu sais. Ouais. Moi, je me laisse guider.
Chalon-sur-Saône, et puis ensuite, ça descendra à Lyon. Tu passes dans Lyon?
Ouais.
Là, par contre, il y a de. Alors, je vais le dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de Lyonnais qui écoutent le podcast. Donc, je sais pas quel jour tu seras à Lyon, mais tu te mettras à jour. Et puis ensuite, bon, après, c'est de la descente, Valence, Montélimar, etc. Mais c'est vrai, c'est pour ça que là, je me dis, mais franchement, c'est un sacré truc. Et j'ai hâte de voir comment vous allez faire. Parce que quand on parle de ces zones-là, on parle quand même de zones où c'est vraiment l'autoroute. Normalement, c'est l'autoroute des vacances, l'autoroute du soleil.
Oui, il y a la 6, mais à côté de la 6, il y a une nationale ou il y a une départementale. Parce que l'autoroute, c'est pas la première route qui est arrivée sur le territoire français. Il y avait d'autres petites routes avant.
Voilà. Et puis, tu vas passer dans des coins que je connais un petit peu, tu vois, quand tu vas arriver dans ces zones-là, vers Avignon et compagnie. J'espère quand même, parce qu'on a parlé de la chaleur. Il peut y avoir de la pluie aussi dans ces zones-là.
Oui.
Et notamment, il y a des zones un peu inondables. Donc, j'espère pour toi que tu ne seras pas obligé de nager sur la route. Remarque, ça t'allongera, ça t'améliorera ton nombre de kilométrages que
tu vas pouvoir
faire.
Voilà, ça sera pour être dans les chiffres du 1800 km de natation.
Voilà, parce que dans cette zone-là, il y a quand même le Rhône. Et le Rhône, des fois, ça déborde. Et puis, ensuite, tu l'as dit, c'est la descente. Joup, on descend. Moi, je suis en train de regarder ta route, tu vois, ton petit chemin. Les Alpilles, oulala, et tout. Et puis ensuite, tac, ça descend. Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent, on va faire un petit coucou à. On parlait de Lilian tout à l'heure, qui est à Aix.
On parlait de Lilian. J'irai faire un petit coucou aussi à Pierre Mastad. Pierre, mince, son nom exact m'échappe, mais qui a, comme Lilian, traversé l'Atlantique, mais dans un autre sens. Pierre Mastalski, voilà, pour moi. Et puis Nico du LTP, du Let's Try Podcast, et puis plein d'autres en fait, parce qu'en plus le 22 mai, alors j'y serai pas en mai, mais ça tombait à peu près bien si j'avais fait le défi en mai. J'arrivais pour le week-end du 22 mai, qui est le week-end du triathlon d'Aix-en-Provence, de Alpha Ironman, où il y a beaucoup des triathlètes que j'ai interviewés sur mon podcast Devenir Triathlète qui seront présents.
Et puis ensuite, bon bah après t'es dans le sud, et puis là après ça va être la côte et tout, les coins à vacances, Cannes. Ah, tu as monté les marches du festival.
Ouais. Bah, en juin, ce sera trop tard. Hein. Je ne monterai plus les marches. Mais, je pourrais les monter, mais il n'y aura plus le festival.
Et puis Nice, et puis Monaco, et puis voilà. Et puis bah, après, ça sera la quille, hein, pratiquement. Tiens, tu vois, quand même, on va se projeter. Quand même, est-ce que tu te dis déjà dans quel état d'esprit tu vas être le premier jour que tu vas partir ? Quand tu vas prendre le départ là.
Ouais, alors j'essaie de visualiser plus le départ que le reste des autres jours. Au départ, je pense que je serais bien excité, avec un petit peu d'appréhension, parce que par rapport au plan que Paul m'a préparé, ce sera pas la première fois que je ferai 60 km de course à pied dans une journée, mais quand même un petit peu d'appréhension, non pas par rapport à la distance du jour, mais plutôt à l'ampleur du défi qui m'attend. Et puis je l'ai dit, hein, au départ de Dunkerque, je vais commencer en nageant, donc. Nager dans la Manche, même si je suis normand et que je connais, c'est pas aussi agréable que nager dans la Méditerranée, quoi. Donc finalement, décaler au mois de juin, ça va être sympa.
Bah écoute, c'est ça aussi l'aventure. Hein. T'as choisi ton chemin, t'aurais pu faire un autre chemin, t'aurais pu faire le Tour de France, t'aurais pu faire d'autres choses. Toi, tu traverses selon la Via Agrippa, mais c'est vrai. Et c'est moi, tu vois, c'est le truc comme ça. Je trouve que c'est vachement original parce que il y a pas grand monde qui s'amuse à prendre les voies romaines en. Déjà, il faut connaître leur existence, savoir par où ça a passé, etc. Donc déjà, ça m'a interloqué un peu, je pense. Toi, les gens, ils vont dire, tiens, mais il y a des voies romaines qui passaient par là, etc. Je trouve que c'est une idée qui change un peu, parce que entre ceux qui font le tour de la France, qui font des trucs comme ça, etc. C'est vrai qu'il y a le côté swimrun qui est drôle. Ouais. Enfin, qui est drôle. Hein. J'ai pas regardé si tu passais par autour de Saint-Etienne, là où on avait fait notre swimrun, parce que tu aurais pu faire un espèce de petit traversée,
un petit
coucou, aller toucher un petit peu la petite truc de l'église qui dépasse là au milieu du lac, mais bon, t'aurais pu continuer ton petit chemin comme ça. En tout cas, on peut te souhaiter qu'une belle réussite. Alors, on l'a peut-être pas trop dit, mais en ce moment, ça fait quoi, 15 jours que tu es à l'arrêt?
Ouais, c'est ça, que je suis à l'arrêt de course à pied, mais pas à l'arrêt du reste. J'en ai profité pour mettre à profit ce temps, non seulement pour nager, parce que la partie natatoire, je l'avais pas laissé de côté, mais c'était pas la priorité en ce moment. Je nageais plutôt deux fois par semaine. Là, depuis que j'ai arrêté de courir à cause de ma blessure au genou, je nage tous les jours. Donc j'ai fait ça. J'en ai profité aussi pour faire un peu plus de muscu et de renfo, notamment eu égard aux exercices que m'ont montré aussi bien mon kiné que Paul, mon entraîneur. Et puis j'en ai profité aussi pour avancer sur quelques podcasts que j'avais en retard. Et d'ailleurs, il y a le podcast Reconversion Aventure qui faisait partie du projet Agrippa qui va bientôt voir le jour. Mais c'est un peu une Madeleine de Proust, un peu comme Kilomètre 350. Tu vois.
Alors ça, c'est un coup bas. Alors ça, monsieur, c'est un coup bas. Ça, c'est un
mais
coup
peut-être
bas.
Que quand l'épisode sortira, tu l'auras enfin lancé, non ?
Écoute, j'ai dit en mars, je lance ça en mars. Voilà. En tout cas, écoute, bon, comme toujours, c'est un plaisir hein, de t'avoir parce que, ah là là, on a fait tellement de lives, on s'est tellement amusé, on a tellement discuté et tout, mon ami, que forcément, il fallait qu'on discute de ton projet. Je te réinvite. Après,
ça marche.
Mais peut-être qu'on fera des petits clins d'œil.
On fera un call entre les deux le 18 juin, c'est ça ?
On fera un petit call, peut-être qu'on fera des petits lives Instagram, un truc comme ça pour tenir en courant. En tout cas, on partagera pour que tu en suives parce qu'il y a plein de gens. Franchement, je suis sûr que si on regarde un petit peu le parcours, il y a plein de gens qui vont se rendre compte qu'ils sont sur ton passage. Mmh. Avec à tel ou tel moment, ils sont pas obligés de faire les 60 bornes avec toi. Ce jour-là, ils peuvent venir courir, en faire 10 et puis repartir dans l'autre sens, en faire 10 pour rentrer chez eux. S'ils ont des, peut-être, il y en a peut-être certains qui ont les clés des piscines. Tu sais pas, tu sais.
Ah ben c'est vrai, il y a peut-être des gens qui gèrent des piscines. Il y a peut-être des maîtres nageurs. Il y a peut-être dans cette belle communauté plein de gens qui pourraient aider aussi à ce niveau-là.
Voilà. Donc si vous pouvez aider, si vous pouvez donner les clés des cimetières aussi pour qu'ils y voient, mettez-lui des petits panneaux comme quoi l'eau elle est potable au cas où, parce que on sait jamais.
Vous imprimez des petits logos de hamster, des petites têtes de hamster, là, l'emoji du hamster, et puis vous les mettez sur les portes des cimetières, comme ça je saurais que je peux aller boire un verre.
Voilà, en fait on va mettre des hamsters partout, on va mettre une petite tête de hamster partout, et partout où tu verras une tête de hamster, tu sauras, tu sais, c'est comme à une époque ils mettaient les trucs là pour les croisades avec les trucs, je sais pas comment, et ben là nous on va remplacer par des hamsters, et ça voudra dire qu'en fait t'es en territoire ami, tu sais,
ça va.
C'est ici tu trouveras à manger et à boire. Peut-être même, et je le dis, ça se trouve, il y en a peut-être même qui vont t'ouvrir les portes, qui vont dire, allez, aujourd'hui, tu dors pas dans le camping-car, tu vas dormir dans un lit bien douillet, etc., pour te remettre, wow, etc. Donc, si vous voulez aider, déjà, on l'a dit, Patreon ou Ko-fi, peut y avoir aussi peut-être des sponsors qui seraient intéressés. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des camping-cars, peut-être,
mais oui,
va savoir, ou qui connaissent des gens qui auraient des camping-cars, etc. Allez savoir. Et bien sûr, tous les liens sont dans les notes de l'épisode, on le redit. Là maintenant, soigne-toi bien quand même, hein.
Merci. Aujourd'hui, je me repose, et puis demain, je vais faire une séance d'aquajoning, ça va faire du bien.
Ouais, je t'ai pas demandé combien de paires de chaussures t'avais prévu d'user pendant ton petit périple.
Bah, ça va dépendre des chaussures que je vais mettre. On en a parlé en off avant de commencer l'épisode. J'étais parti pour faire le défi en Five Fingers qui ont une durée de vie à peu près de 1200 km. Mais je vais retourner sur des chaussures un peu plus, entre guillemets, classiques. Et donc là, on est entre 800 et 1000 km. Alors ça, c'est la théorie, hein, parce qu'en réalité, des paires de chaussures qu'on utilise tous les jours, même si je vais essayer de tourner, allez, je vais partir avec 5 paires de chaussures, ça devrait faire.
Voilà, 5 paires de chaussures. Donc si vous avez des chaussures pour Hermano...
42 et demi, 43 là, la pointure, voilà, oui. N'hésitez pas.
Hermano est capable de se chausser au rayon femme, donc vous pouvez aussi lui envoyer des chaussures roses. Lui, il a les pieds qui rentrent dedans sans aucun problème.
Parce c'est que, ça.
Hein, on l'avait dit une fois, tu m'avais fait rigoler avec un modèle féminin. Bon. Moi, je rentre pas dedans, mais en tout cas, toi, tu peux.
Non, mais t'as des palmes. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi t'es pas avancé plus vite. Mais oh non, j'arrête. Ça fait la deuxième pique que je t'envoie. Je suis désolé.
Ça c'est très bas. Ça c'est très 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 bas. C'est un coup très bas. En tout cas. Je mets tous les liens dans la note de l'épisode pour bien entendu te suivre. On se donne rendez-vous un petit peu au fur et à mesure, hein, parce que c'est un petit peu loin, etc., les prochaines étapes. Et après, je te le répète, hein, après, au mois de juillet, quand tu seras rentré, etc., tu seras le bienvenu à nouveau. Et puis, on pourra discuter de ça. Et en tout cas, on t'envoie tous nos encouragements, toutes nos... La force du Hamster Zoning Club, tu sais qu'elle est avec toi, elle est derrière toi, la force des hamsters.
Je le sais.
Parce qu'on le sait que la communauté... En fait, vous voyez pas, mais il y a plein de gens de la communauté qui l'aident, etc. Parce que plein de noms qu'on a donnés, en fait, ce sont des hamsters. Hein, c'est aussi c'est un petit peu la force du truc. Et écoute, on peut pas te dire merde parce que trop tard. on va se faire bannir de Spotify. Mais comment on pourrait te le dire? Parce que toi, qui es polyglotte, tu vois, t'as un petit cri de pas un petit cri de guerre, tu vois, un petit truc comme ça qu'on pourrait dire sur le passage.
Écoute, j'ai pas réfléchi, mais non, juste bon voyage, bonne route.
Bon voyage. Eh bien, écoute, voilà. Hermano, bon voyage, bonne
Merci
route. Entraîne-toi bien, prépare bien les derniers. Enfin, les derniers, t'as pris un peu de marge, donc t'as un petit peu plus de, un petit peu de rab. N'hésitez pas, bien sûr, tous à aller soutenir Hermano. Et puis nous, eh bien, écoutez, bah, vous savez quoi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, nouvel invité, nouveau sujet, nouvelles aventures. On verra un petit peu où tout ça nous mène, etc. Et puis allez savoir, peut-être que d'ici là, j'aurais peut-être commencé le vélo, hein, parce que moi aussi j'ai mon petit défi à préparer. Mais moi, tu vois, j'ai pris un défi qui part sur quelques heures, quelques limite 2-3 jours, parce que moi partir un mois de la maison, pour l'instant, c'était trop. Tu vois, chacun son truc. Et pour ça, rien que pour ça, tu vois, je te dis un grand bravo.
Bon, écoute, merci. Et puis, il y a un truc que tu as oublié de dire, c'est que si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, allez mettre une petite note 5 étoiles et sur Apple Podcast, une petite revue. Ça aide à faire remonter le podcast dans la liste des podcasts. Et puis, avec des gens qui voient plein de belles recommandations, ça va leur donner envie de l'écouter.
Eh ben écoute, merci pour la pub, merci beaucoup, hein, parce que bon, il y a le truc automatique après quand même qui se met, tu sais.
Ouais, je sais.
Mais c'est vrai que Spotify, pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, sur l'application mobile, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un 5 étoiles. Et effectivement, ça aide le podcast à être découvert, etc. Et ça encourage plein de gens à venir. Et vous savez que moi, le podcast aussi, c'est un petit peu mon gagne-pain quand même. Hein. Donc ça fait partie aussi. J'ai besoin d'un peu de visibilité aussi pour financer la suite des projets. Allez, sur ce, Hermano, je te laisse à tes occupations familiales, sportives. Soigne-toi bien, renforce-toi bien, prépare bien, et puis à très bientôt.
Merci Bertrand, un gros bisou à toi et à toute la communauté. Ciao, ciao.
Ciao.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.